Alors le psaume que nous avons vu en première partie est un de ces textes qui parsèment la Bible et qui sont des résumés des œuvres passées de Dieu. Chacun de ces passages présente des survols du plan du salut. Nous voyons cela également, dans les passages suivants, dans Josué chapitre 24, Actes chapitre 13, Hébreux chapitre 11, également dans le psaume 136 que Ginka nous a lu il y a 3 semaines, et dans beaucoup d'autres passages. Alors, avant de continuer, je vais quand même vous signaler qu'il y a beaucoup de citations de versets dans cette prédication, et je vais peut-être pas lire tous les textes, mais bon, je peux vous passer mes notes après si vous voulez noter les versets. Alors, un de ces passages où on présente des survols du plan du salut, un de mes préférés et des plus complets, se trouve dans le témoignage d'Étienne avant sa mort dans Actes chapitre 7, versets 1 à 53. Alors, dès le chapitre précédent, on nous dit que nul ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait, et il faisait des miracles par la grâce et la puissance de Dieu. Nous pouvons voir ça dans Actes 6, versets 8 à 10. Actes 6, 8 à 10. Étienne, plein de force par la grâce de Dieu, accomplissait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques hommes s'opposèrent alors à lui. C'était d'une part des membres de la synagogue, dites des esclaves libérés, qui comprenaient des juifs de Cyrène et d'Alexandrie, et d'autre part des juifs de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais ils ne pouvaient pas lui résister car il parlait avec la sagesse que lui donnait l'Esprit Saint. Donc l'opposition se présente soudain à lui sous la forme d'un groupe de juifs qui l'accusent de blasphème et soulèvent des faux témoins contre lui. Jésus avait en effet prévenu ses disciples que si lui était persécuté, eux-mêmes le seraient. Et c'est ainsi qu'Étienne devint le premier martyr. Mais avant sa mort, il a le temps de leur exposer à eux, pourtant juifs et donc connaissant l'Ancien Testament et les prophéties messianiques, le plan du salut depuis Abraham. Alors, je vais lire ce long texte de Acte 7 en plusieurs morceaux, et je vais commencer par les 17 premiers versets. Acte 7, verset 1. Le grand prêtre lui demanda, « Ce que l'on dit de toi est-il vrai ?» Étienne répondit, « Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparut à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il aille habiter Haran, et lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Abraham quitta alors le pays des Chaldéens et alla habiter Haran. Puis, après la mort de son père, Dieu le fit passer de Haran dans ce pays où vous vivez maintenant. Dieu ne lui donna aucune propriété, pas même un terrain de la largeur du pied, mais il promit qu'il lui donnerait le pays et que ses descendants le posséderaient aussi après lui. Pourtant, à cette époque, Abraham n'avait pas d'enfant. Voici ce que Dieu lui déclara. Tes descendants vivront dans un pays étranger, où ils deviendront esclaves, et où on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves. Ensuite ils s'en iront de là, et me rendront un culte dans ce lieu-ci. Puis Dieu conclut avec Abraham l'alliance dont la circoncision est le signe. C'est ainsi qu'Abraham circoncit son fils Isaac le 8e jour après sa naissance. De même, Isaac circoncit Jacob, et Jacob circoncit les 12 patriarches. Les patriarches furent jaloux de Joseph et le vendirent pour être esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses peines. Il donna la sagesse à Joseph et le rendit agréable aux yeux du Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci établit Joseph comme gouverneur sur l'Égypte et sur toute la maison royale. La famine survint alors partout en Égypte et dans le pays de Canaan. La détresse était grande et nos ancêtres ne trouvaient plus rien à manger. Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya nos ancêtres une première fois. La seconde fois qu'ils y allèrent, Joseph se fit reconnaître par ses frères, et le pharaon apprit ainsi quelle était la famille de Joseph. Alors Joseph envoya chercher Jacob, son père, et toute la famille qui comprenait 75 personnes. Jacob se rendit donc en Égypte, où il mourut, ainsi que nos autres ancêtres. On transporta leurs corps à Sichem, et on les enterra dans la tombe qu'Abraham avait achetée pour une somme d'argent au fils de Hamor, à Sichem. Lorsque le temps approcha où Dieu devait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, notre peuple s'accrut et devint de plus en plus nombreux en Égypte. Comme Matthieu démontre l'origine humaine de Jésus en commençant sa généalogie par Abraham, en Matthieu 1, Ici, de même, Étienne commence par ce patriarche pour dévoiler différentes étapes de la révélation de Dieu à sa femme. En effet, Étienne s'adresse à des Juifs, et ceux-ci l'accusent de blasphémer contre les lieux saints, contre la loi et contre Moïse. Il était donc important de partir de l'Ancien Testament pour montrer que Jésus s'inscrivait dans la continuité de ce qu'annonçait l'Écriture depuis des siècles, ce en quoi ces Juifs croyaient ou du moins étaient censés croire. Il commence donc par l'appel d'Abraham, qui nous est relaté dans le chapitre 12 de la Genèse. L'histoire du plan du salut débute par un simple homme, mais un homme qui était un modèle d'obéissance et de foi. Nous lisons cela dans Hébreux, chapitre 11 au verset 8, Hébreux 11, 8. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. C'est un homme qui a accepté de tout quitter pour obéir à Dieu. Et les promesses de Dieu à l'égard d'Abraham ne le concernaient pas seulement lui, mais aussi ses descendants et même de nombreuses nations après lui. Dieu lui avait promis qu'à travers lui, il bénirait toutes les nations de la terre. C'est ce que dit Genèse 12, verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Il lui a promis une grande descendance, et c'est de là que plus tard naîtrait le Messie, ce Messie qu'avaient repoussé justement les auditeurs d'Étienne. En effet, l'évangile de Matthieu commence par « Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, lui-même descendant d'Abraham. » Étienne fait le lien entre Abraham et ses auditeurs en leur rappelant que le pays dans lequel Dieu avait envoyé Abraham est le pays dans lequel vous habitez maintenant. C'est ce qu'il dit dans le verset 4 de Acte 7. Abraham quitta alors le pays des Chaldéens et alla habiter Haran, puis après la mort de son père, Dieu le fit passer de Haran dans ce pays où vous habitez maintenant. Comme souvent dans la Bible, les religieux juifs qui devraient être les plus fidèles à Dieu sont ceux qui s'opposent à ses vrais serviteurs. Étienne rappelle aux juifs qu'Abraham, lui, était fidèle et obéissant, ce qu'ils devraient eux aussi être. De même, dans l'évangile, Jean-Baptiste et Jésus s'étaient déjà opposés aux religieux, qui prétendaient être des descendants d'Abraham, mais n'agissaient pas comme lui avait agi. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 3, les versets 8 et 9, Matthieu 3, 8 et 9, « Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité, et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même « Abraham est notre ancêtre », car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. » Ça, c'est ce que déclarait Jean-Baptiste. Et Jésus, lui, dans Jean 8, versets 38-39, dit ceci, « Moi, je parle de ce que mon Père m'a montré, mais vous, vous faites ce que votre Père vous a dit. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, leur dit Jésus, vous feriez les actions qu'il a faites. » Et quelques versets plus loin, toujours dans Jean 8, Jésus faisait d'ailleurs le lien entre Abraham et lui-même, en montrant sa supériorité, à lui, Jésus, par rapport à Abraham. Jean 8, versets 54 à 58, Jésus répondit, « Si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne vaudrait rien. Celui qui me glorifie, c'est mon Père. Vous dites de lui, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur, comme vous. Mais je le connais, et j'obéis à ses paroles. Abraham, votre père, s'est réjoui à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été heureux. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Avant qu'Abraham soit né, je suis. » Et il avait fait le même parallèle quelques chapitres plus tôt par rapport à Jacob. Dans Jean 4, versets 11 à 14, Jean 4, 11 à 14, avec la Samaritaine, la femme répliqua, « Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Quand pourrais-tu avoir cette eau vive ? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » Et dans ce chapitre de Acte 7, au verset 6 et 7, Étienne rappelle ce qui nous a été rapporté en Genèse 15, Le Seigneur lui dit, « Sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils y seront esclaves, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens. » C'est dans Genèse 15, versets 13-14. C'est l'annonce d'un esclavage, puis d'une libération. Pour les adversaires d'Étienne, cela peut être un espoir, en découvrant que cette promesse s'est accomplie et aussi accessible pour eux. Mais malheureusement, il se passe la même chose qui s'était passée avec Jésus dans Jean 8, au verset 33 à 36. Et les auditeurs n'accueillent pas favorablement les paroles d'Étienne. Dans Jean 8, 33 à 36, nous lisons, « Ils lui répondirent, donc à Jésus, « Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si le fils vous libère, vous serez alors vraiment libres. » Ils pensent qu'ils ne sont esclaves de personne, qu'ils n'ont pas besoin d'être affranchis par le Seigneur. Et souvent, c'est hélas encore le cas de nos contemporains, qui pourtant vivent dans l'esclavage de leur péché, de la peur de la mort. Pour Étienne, en revanche, le rappel de Genèse 15 est le rappel que comme le peuple de Dieu a été persécuté par le Pharaon, les serviteurs de Jésus seront persécutés également. Ensuite, Étienne rappelle que l'obéissance et la foi ont été à l'époque des patriarches transmis de génération en génération avec fidélité, comme je le rappelais dans la première partie. L'alliance de la circoncision a été transmise d'Abraham à Isaac, puis à Jacob, puis à ses enfants. Au verset 51, Étienne appellera ses contradicteurs « incirconcis de cœur et d'oreille ». Il leur rappelle que même s'ils sont circoncis, comme les patriarches, dans leur chair, leur cœur reste dur et impénitent. Le plan de Dieu continue à s'accomplir au fil du discours d'Étienne, en arrivant à la génération de Joseph. Au verset 9, donc toujours dans Acte 7, il nous montre que ce qui s'accomplit à travers de l'histoire de Joseph continue à être le plan de Dieu, et Dieu est avec lui, comme Dieu est avec nous, à travers Emmanuel, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit « Les patriarches furent jaloux de Joseph et le vendirent pour être esclave en Égypte, mais Dieu était avec lui. » Encore une fois, le péché met la grâce de Dieu. Étienne raconte l'histoire de Jacob telle qu'elle nous est décrite dans Genèse 37 à 50, en rappelant que comme Jésus et les prophètes, c'était un juste persécuté, et qui plus est par ses propres frères. Acte 7, versets 9 et 10. Les patriarches furent jaloux de Joseph et le vendirent pour être esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui, il le délivra de toutes ses peines. Il donna la sagesse à Joseph et le rendit agréable aux yeux du Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci établit Joseph comme gouverneur sur l'Égypte et sur toute la maison royale. Et au verset 52, lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste, et maintenant c'est lui que vous avez trahi et tué. Étienne rappelle aussi que tous les personnages de l'histoire biblique sont morts, et que eux-mêmes ont mis à mort le vrai juste, le Fils de Dieu. Mais au moment de sa propre mort, Étienne décrit une vision de Jésus, qui maintenant est ressuscité, debout à la droite de Dieu. Au verset 55, « Mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Maintenant, nous allons voir les versets suivants, les versets 18 à 41 de Acte 7. Puis un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, se mit à régner sur l'Égypte. Ce roi trompa notre peuple et maltraita nos ancêtres en les obligeant à abandonner leur bébé pour qu'il meure. À cette époque naquit Moïse, qui était un bel enfant, agréable à Dieu. Il fut nourri pendant 3 mois dans la maison de son père. Lorsqu'il fut abandonné, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Ainsi, Moïse fut instruit dans toutes les sciences des Égyptiens, et devint un homme influent par ses paroles et ses actes. Quand il eut 40 ans, Moïse décida d'aller voir ses frères de race, les Israélites. il vit un Égyptien maltraiter l'un d'eux. Il prit la défense de l'homme malmené et, pour le venger, tua l'Égyptien. Il pensait que ses frères israélites comprendraient que Dieu allait leur accorder la délivrance en se servant de lui, mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, Moïse rencontra deux Israélites qui se battaient, et il voulut rétablir la paix entre eux. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous ? » Mais celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse en lui disant, « Qui t'a établi comme chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À ces mots, Moïse s'enfuit et alla vivre dans le pays de Madian. Là-bas, il eut deux fils. 40 ans plus tard, dans le désert proche du mont Sinaï, un ange apparut à Moïse dans les flammes d'un buisson en feu. Moïse fut étonné en voyant cette apparition, mais au moment où il s'avançait pour regarder de plus près, il entendit la voix du Seigneur qui disait « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Tremblant de peur, Moïse n'osait plus regarder. Alors le Seigneur lui dit « Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis venu pour le délivrer. Va maintenant, je veux t'envoyer en Égypte. » Ce même Moïse que les Israélites avaient rejeté en lui disant « Qui t'a établi comme chef et juge ?» Dieu l'a envoyé comme chef et libérateur par l'intermédiaire de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est Moïse qui a fait sortir les Israélites d'Égypte en accomplissant des prodiges et des miracles dans ce pays à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est Moïse encore qui dit aux Israélites « Dieu vous enverra un prophète comme moi qui sera un membre de votre peuple. » De plus, alors que le peuple d'Israël était assemblé dans le désert, c'est lui qui se tenait entre nos ancêtres et l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Il reçut les paroles vivantes de Dieu pour nous les transmettre, mais nos ancêtres ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et désirèrent retourner en Égypte. Ils dirent à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. » Ils fabriquèrent alors un veau et offrirent un sacrifice à cette idole. Ils fêtèrent joyeusement ce qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué. Mais nous voyons dans ce passage que le plan de Dieu continue à s'accomplir. Même si les épreuves et les difficultés s'intensifient avec l'entrée en scène de Pharaon, un homme qui n'avait pas connu Joseph et qui voyait le peuple de Dieu grandissant comme un danger plus que comme une bénédiction pour son pays. Et c'est ce que nous voyons dans Exode chapitre 1 verset 8 à 11. Un nouveau roi commença à régner sur l'Égypte, mais il ne savait rien de Joseph. Il dit à son peuple, « Voyez, les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus fort que nous. Il faut trouver un moyen pour limiter leur nombre. En cas de guerre, ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. » Les Égyptiens désignèrent alors des chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël en lui imposant de rudes travaux. C'est ainsi que les Israélites durent construire les villes de Pithom et Ramsès pour y entreposer les réserves du pharaon. Et nous savons qu'un autre roi voudra de même s'en prendre à ce qu'il percevait comme une menace. Là, c'est dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. Matthieu 2, 1 à 6. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. « Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Et de même aujourd'hui, le prince de ce monde persécute sans cesse les chrétiens. Après Joseph, Moïse nous est présenté comme celui qui était puissant en parole et en acte, ce que nous dit le verset 22. Le même verset nous dit aussi qu'il avait de la sagesse. Ainsi, Moïse fut instruit dans toutes les sciences des Égyptiens et devint un homme influent par ses paroles et ses actes. Cette description nous rappelle d'ailleurs celle que Luc, l'auteur des Actes, nous fait d'Étienne lui-même en acte 6, comme nous l'avons vu au début de ce message. Moïse, lui aussi, a été persécuté par sa famille et son peuple d'adoption. Ils n'ont pas compris le plan de Dieu, et en quoi Moïse était utilisé par Dieu pour accomplir ce plan. Les versets 23 à 25 nous disent ainsi, « Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qui maltraité, a pris sa défense, et pour venger l'homme malmené a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. Moïse a dû fuir et vivre au désert pendant 40 ans, comme le Fils de Dieu y sera tenté pendant 40 jours. Quand Dieu s'est révélé à Moïse 40 ans plus tard, il s'est révélé au départ comme le Dieu de ses ancêtres. Moïse, cependant, contrairement aux Juifs de l'époque de Jésus et de l'époque d'Étienne, ne s'est jamais vanté d'avoir Abraham, Isaac et Jacob pour ancêtres. En revanche, il a tremblé devant la gloire de Dieu, celui qui allait se présenter comme « celui qui est », en Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis », et il ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites, « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Mais contrairement aux adversaires de Moïse, de Jésus et d'Étienne, qui ne voyaient dans les envoyés du Seigneur que des troubles faits, Dieu lui-même voit le potentiel de ceux qu'il appelle, même si eux-mêmes ne le voient pas toujours. Et c'est quelque chose qui peut aussi nous encourager, nous qui ne voyons pas toujours comment bien servir Dieu avec nos faiblesses. Verset 33, le Seigneur lui a dit « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Le verset 34 est au cœur même de ce plan du salut qu'Étienne nous expose ce matin. Un Dieu saint et tout-puissant, mais qui est aussi un Dieu compatissant, qui entend les souffrances de ses enfants, et qui envoie ses serviteurs pour délivrer son peuple, qui enverra en particulier son propre fils, comme le serviteur souffrant dont parle Ésaïe en Ésaïe 53, versets 3 à 6. Ésaïe 53, 3 à 6. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Mais la désobéissance et l'idolâtrie continuent à l'époque de Moïse. Et nous allons voir la dernière partie de ce texte d'Acte 7, verset 42. Mais Dieu se détourna d'eux et les laissa adorer les astres du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes. Peuple d'Israël, est-ce à moi que vous avez offert des animaux et d'autres sacrifices pendant 40 ans dans le désert? Non, mais vous avez porté la tente du dieu Moloch et l'image de votre dieu étoile Réphan, ces idoles que vous aviez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous déporterai au-delà de Babylone. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente qui renfermait le document de l'Alliance. Elle était faite comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. En effet, il avait dit à Moïse de reproduire le modèle qu'il avait vu. Cette tente fut transmise à nos ancêtres de la génération suivante. Ils l'emportèrent avec eux lorsque, sous la conduite de Josué, ils conquirent le pays des nations que Dieu chassa devant eux. Elle y resta jusqu'à l'époque de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et lui demanda la permission de donner une demeure sainte pour les descendants de Jacob. Toutefois, ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Dieu Très-Haut n'habite pas dans des maisons construites par les hommes. Comme le déclare le prophète, le ciel est mon trône, dit le Seigneur, et la terre un escabeau sous mes pieds. Quel genre de maison pourriez-vous me bâtir? En quel endroit pourrais-je m'installer? N'ai-je pas fait tout cela de mes mains? Vous, hommes rebelles dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste. Et maintenant c'est lui que vous avez trahi et tué. Vous qui avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, vous n'avez pas obéi à cette loi. Cependant, certains hommes fidèles continuent à servir Dieu. Étienne dit, nos ancêtres avaient la tente du témoignage, celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçue et l'ont introduite sous la conduite de Josué, dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassées devant eux, et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a servi Dieu et Salomon a continué en construisant le temple pour lui. Mais le Créateur du ciel et de la terre, incarné dans le corps d'un homme tel que nous, vivant la souffrance, la persécution et même l'expérience de la mort, n'avait aucun endroit pour reposer sa tête. Et pourtant il continuait à prendre soin des siens et à veiller sur eux comme un bon berger, à unir dans sa famille juifs et non-juifs en un seul peuple racheté pour l'éternité. Ce long plaidoyer d'Étienne se termine par la constatation que ses adversaires ne sont pas mieux que leurs ancêtres, que lui-même, Étienne, serviteur de Dieu, est persécuté par eux, comme les autres serviteurs de Dieu par le passé ont été persécutés à leur époque par un peuple qui se glorifiait d'être le peuple de Dieu. Mais Jésus, le juste par excellence, rejeté des siens, avait annoncé que ses serviteurs seraient aussi persécutés. Mais il leur a aussi dit, en Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Les versets suivants nous montrent en effet Étienne lapidé, mais en même temps qu'il reçoit une révélation de Jésus en gloire à la droite du Père. Comme Pierre face à Ananias et Saphira deux chapitres avant, Étienne déclare bien que ce n'est pas à des hommes que s'opposent ses opposants. C'est au Saint-Esprit lui-même. Pour conclure, nous pouvons retenir beaucoup de choses de ce texte très riche. Ne soyons pas naïfs en espérant avoir notre place, et encore moins une place d'honneur, dans ce monde déchu qui s'oppose à notre Seigneur. Mais n'ayons pas non plus peur de ceux qui voudraient se moquer ou nous rejeter à cause de notre foi, car Dieu est avec nous. Ne soyons pas orgueilleux, parce que nous sommes chrétiens et nous faisons partie du peuple de Dieu, c'est uniquement par grâce que nous sommes les descendants spirituels d'Abraham. Recherchons comme Étienne à être toujours remplis de foi, de sagesse et du Saint-Esprit. Servons le Seigneur malgré les épreuves avec obéissance et persévérance. Et enfin, ne nous lassons pas de nous laisser encourager par la parole de Dieu et par nos frères et sœurs.